Achetez des bonnes choses en tout cas.
Nous arrivons.
Donc moi je commence là.
Bonjour, bonjour, bonjour les Marseillaises et les Marseillais et les autres auditrices et auditeurs de Radio Galère pour cette émission Livres et Amis du mercredi 9 novembre 2022. Dominique et Françoise au micro et derrière la vitre, trois jeunes, notre Majdouline, comme souvent, et donc Joanne et Camille. Eh bien, bravo pour la technique et merci la technique, voilà. Au-delà de la technique, je vous parle souvent d'exposition ou de cinéma et cette semaine, je vous invite à découvrir à la Friche de la Belle de Mai, pendant ce grand week-end de 4 jours, oui, ça commence jeudi, les Instants Vidéo, un super festival de projection et de performance en accès gratuit, donc à la Friche et dans d'autres lieux de Marseille. Allez consulter le programme sur instantvideo.com, hein, en un seul mot, instant au pluriel, vidéo.com. Et puis quand même, au cinéma, allez vite voir Reprise en main de Gilles Perret, avant qu'il ne disparaisse des écrans. Allez le voir, bah, par exemple, à l'Alhambra, à l'Estac, et je suppose dans d'autres cinémas marseillais.
Alors, je confirme, c'est réjouissant.
Ah oui, 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 oui. Reprise en main, c'est... un film engagé, mais qui donne le moral. Donc voilà, allons-y, retournons-y. Et en attendant, revenons à notre lecture de la semaine, ou plutôt avec cette lecture, allons au Québec. Vous vous souvenez peut-être que début octobre, on avait lu « Coucoum » de Michel Jean, qui était un superbe roman mettant en scène les Amérindiens du Québec au début du XXe siècle. Eh bien, cette semaine, nous donnons la parole à un tout autre auteur québécois, Serge Bouchard, avec l'œuvre du grand lièvre Filou. C'est très différent, même si le thème central, c'est évidemment le Québec. Serge Bouchard est anthropologue et dans l'œuvre du grand lièvre Filou, il a rassemblé l'essentiel d'une dizaine de ses chroniques donné à Québec Science, dans les années 2010, 2012, 2015, 2018, 2020, ça se termine à ce moment-là. Donc, ce livre, l'œuvre du grand lièvre Filou, c'est un genre de bilan de son travail d'anthropologue au Québec au fil de ses voyages d'études. Et j'ai groupé ces textes autour de deux grands thèmes. D'abord, pour rappeler le cadre, la nature, les pays, les paysages, en ayant à côté de soi une carte du Québec, ça rend service, et du Grand Nord québécois pour mieux s'y retrouver. Et puis, comme dans Coucoum, le rappel de l'histoire des peuples, de leurs rencontres, de leurs lieux de vie, de leurs luttes aussi, pour la survie en particulier de leur patrimoine linguistique et culturel. Écoutons d'abord son explication du titre du livre et de son écriture.
À l'origine des temps, le lièvre Filou a créé la Terre en courant un peu partout, sur une île minuscule perdue à la surface de l'océan universel. Le lièvre filait à toute vitesse, sautant dans toutes les directions. Un bond au nord, un bond au sud. Chacun de ces mouvements augmentait la surface de son île, et de bond en bond, l'île devint un continent. Le Filou a même fait des vallées où coulent des rivières. Il a fait des collines en s'arrêtant tout brusque, retroussant le sol, formant des plis sur le visage de la terre. Il a fait les forêts, les animaux. Tout ce qui nous entoure est l'œuvre du grand lièvre Filou. Les lacs, les pierres, le sable, les fleurs, les oiseaux et les mouches. Disons que je suis de ce lièvre l'apôtre et que je me suis donné pour mission de faire honneur à la beauté de son ouvrage. Le livre que vous tenez entre vos mains est le fruit d'une décennie de chroniques dans la revue Québec Science. Surtout, il résulte de 50 ans de voyagement et d'étonnement face aux gens, aux choses et aux bêtes en des lieux divers. Voyez-y le journal d'un anthropologue vagabond, ses notes de terrain. Des images et des images, le cinéma primitif des nomades. 2 millions de kilomètres dans le corps, plusieurs voitures usées, autant de tempêtes et de blizzards, et combien de conférences seront venues à bout de moi. Entre Rose Bergeronne et mon dernier voyage, j'aurai épuisé mes réservoirs. J'arrive au terme de ce travail avec une grande fierté, une immense reconnaissance envers les gens, les bêtes et les choses qui m'ont transmis l'esprit des lieux. J'ai vu des paysages divins, j'ai entendu des histoires remarquables, témoins béats des aubes les plus belles et des crépuscules les plus mélancoliques. J'ai dérivé sous des soleils francs, sous le vent, par beau temps. Chemin de terre, chemin d'asphalte, chemin brisé, vous m'avez permis de rouler sans bon sens jusqu'à m'étourdir de poésie et de philosophie. Merci l'ours noir d'avoir croisé mes chemins de gravelle. Merci les caribous dont les yeux résolus me hantent toujours. Des milliers de caribous en voyage, une rencontre qui m'a propulsé loin derrière au paléolithique, à la fonte des glaciers, à la chasse dans la grande toundra au milieu des familles ancêtres. Je remercie les épinettes noires, une à une, les nuages des grandes prairies, les marais, la mousse et le lichen, et tous ces noms de lieux qui ont la mémoire si longue. Merci aux chasseurs, aux truckers, aux tambours de la femme chamane, à tous ceux et celles que j'ai croisés sur ma piste et qui m'ont tant donné des mots, des phrases, des idées, autour d'une guedille au homard, d'une fricassée de castor, d'un hamburger steak, d'une soupe du jour, d'un café. J'ai aussi vu des forêts massacrées, des arbres inutilement abattus, des villages perdus et déprimés, le visage des victimes de l'histoire, des mémoires bousculées, des amnésies coupables, beaucoup d'indignité. La belle Boréalie cache ses petits dépotoirs de métaux rouillés, d'huile usée, un répertoire des péchés contre nature. Nous bâtissons mal et pauvrement, nous concédons tout au commerce sans orgueil et aux affaires privées. Nous gardons le silence sur ces sacrilèges, sur ces paysages défigurés, sur ces cicatrices, comme nous avons toujours gardé le silence sur le prix du progrès. Finalement, lues d'un coup, ces chroniques sont claires comme de l'eau de roche. Elles finissent par prendre le ton de l'incantation, une petite plainte répétée. Des routes, des pistes, des rivières et des personnes, des mémoires métisses et amérindiennes, francophones, comme si l'Amérique tenait en un seul long périple, un rêve brisé, un élan épuisé. « Que serait le passé si je ne pensais pas à lui ?» demande Jankélévitch dans son livre « Quelque part dans l'inachevé ». Que seraient ces lieux si nous ne les disions pas? Voilà bien mon cheminement. Donner vie à ce qui dort, enfoui sous l'instant, sous l'actuel, sous la surface des stationnements des centres commerciaux. J'ai vécu en une époque où nous avons augmenté le bruit des échanges superficiels pour mieux faire silence à propos de l'essentiel. Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles, dit une phrase célèbre. En effet, il ne se dit plus rien qui traduirait notre profonde indignation, notre refus, notre désobéissance devant une pareille banalisation du monde. Un des textes de ce livre s'intitule « L'émergence du rien ». J'ai longtemps pensé que ce serait le titre de l'ensemble des chroniques. Mais en réalité, le lièvre filou est de retour. À lui de refaire le monde, de lui dessiner un nouveau relief avec des perspectives et de la profondeur. À lui de défaire cette laideur, ces surfaces grises, cette répétition du pareil. À lui de corriger les frasques d'une humanité étourdie et désorientée. L'espoir existe, qui en appelle à l'écriture du livre blanc de la poésie du monde, afin que la beauté, en toute justice, reprenne du poil de la bête. Serge Bouchard, 17 juin 2018.
Donc vous l'avez compris, Serge Bouchard ne fait pas de cadeaux à l'actualité la plus brûlante. Mais en même temps, il a quand même espoir dans ce grand lièvre filou et dans la reprise de sa création. Donc, nous sommes invités à suivre le grand lièvre filou ou son apôtre Serge Bouchard, comme il le dit. Il a voyagé dans toute l'Amérique du Nord, mais le recueil se limite au Canada et on va tout de suite comprendre pourquoi. Cet été, je ne suis pas allée aux États-Unis. L'élection de cet étrange personnage qu'est Donald Trump nous apparaît encore et encore telle une mauvaise surprise. comment les Américains, enfin les États-Unis, ont-ils pu tomber si bas? Pendant des mois, nous sommes allés de farce en étonnements divers. L'imbécile a pollué la planète politique, déshonorant son pays un jour après l'autre. Mais le pire, ce sont les effets pervers de ces messages. Les paroles irresponsables de Donald Trump ont fini par libérer la bête. Elles ont laissé refleurir la théorie d'un grand complot. Le reste coule de source. Néonazisme, suprématie blanche, fascisme extrême, clan, meute, chevalier de la patrie, le sol, le sang, le mythe, la croisade. Les mots veulent dire quelque chose et à la fin, ils en disent même plus qu'ils ne le voudraient. C'est comme si la pensée et les images s'emballaient, allant jusqu'à donner aux mots des résonances que l'on doit qualifier d'effrayantes. La croix de feu, la croix gammée, les emblèmes mortifères. Toutes ces expressions finissent par avoir un uniforme, une couleur, le noir de l'intimidation, la tête de la mort. Rien ne se perd, tout se recycle, de la vieille photo d'Hitler avec son infâme svastika et jusqu'aux peurs qu'il n'a jamais cessé de créer. Il faut se pincer pour réaliser qu'aux États-Unis, le Ku Klux Klan, le KKK, enfile encore son costume pathétique, qu'il recrute ses membres et reprend du service. Ils ne sont peut-être pas nombreux, ces misérables, ou peut-être le sont-ils. Il n'empêche que ce poison est si virulent qu'un seul scorpion est un scorpion de trop. Le mal n'était pas mort, il était simplement tapis, comme une bactérie qui vit à la surface de notre peau, en attendant l'heure de pénétrer dans notre corps pour mieux l'envahir en profondeur. Inflammation, douleur, prolifération, contagion, le discours haineux du raciste ordinaire est comme du pus qui s'écoule de l'abcès. Ce pus, c'est la bêtise pure, une bêtise qui suinte, mais qui fait son chemin en suivant la pente des pires penchants humains. Non, cet été, j'ai évité les grandes routes américaines comme on se tient à distance d'un foyer d'infection. Je n'aurais même pas vu de la manière dont ces camions sudistes roulent sur les autoroutes, arborant fièrement le drapeau des Confédérés, parce que j'aurais vu d'un mauvais œil ces monuments élevant sur un piédestal des individus abjects. J'aurais été mal à l'aise de simplement séjourner dans cet air empoisonné par tant d'insanité ordinaire. Il a été dit que la vraie démocratie repose sur une bonne éducation des citoyens. Et là, c'est l'échec. Et là, c'est l'abcès. Le président des États-Unis personnifie l'esprit simple. Il glorifie l'ignorance. Donald Trump est un être mal élevé. Il est l'illustration parfaite de l'inculture. Il ne lit pas, il n'a jamais lu. Ignare, il est le champion de tous ceux qui ne connaissent ni leur géographie, ni leur propre histoire. Des gens qui méprisent les principes élémentaires de la morale, de la philosophie, de la science, et qui ne savent rien de ce que ça veut dire. Être un humain. Il s'en faudrait de peu pour que la route 66, vous savez, notre légendaire et inspirante route 66, soit rebaptisée la route 666, et oui, la route diabolique, bien goudronnée, sulfureuse. Elle deviendrait officiellement la grande avenue des défilés fascistes. Imaginez, monsieur Trump, les casques de fer, le bruit des bottes, la boucane noire des moteurs brûlants. Comme quoi, les temps changent rapidement. Le climat aussi, qui échauffe jusqu'au mauvais esprit. Donc, pas de chronique sur les États-Unis. Là, ça va, les États-Unis, ils en ont pris pour leur grade. Pas de chronique sur même les États limitrophes, sauf vraiment quand on y débouche en franchissant les limites sud du Québec ou de l'Ontario. Nous verrons. Commençons toutefois par un village bien québécois au nom étrange. Bon, je vais vous dire, c'est un sujet de plaisanterie, même au Québec. Et c'est évidemment un sujet de plaisanterie pour les Français qui y vont en vacances. Alors, on commencera par le village qui s'appelle Les Boules. Là, même Françoise rigole.
Pourquoi s'arrêter aux Boules, me demanderez-vous? À cause du fleuve et de ses grandes marées, des îlots battus par les vagues du temps, des goélands à manteau noir trouant le brouillard blanchâtre des petits jours marins. À cause des roches orphelines que les errants ont menées sur ces plages ingrates, grosses boules dispersées comme des jouets par un géant de glace qui se serait amusé. Jadis, elle est transportée dans ses poches avant de les jeter pêle-mêle sur la grève. En face des boules, on devine les épaves qui dorment et rouillent au fond de l'eau. On distingue les fantômes des goélettes et les silhouettes d'anciens pêcheurs. On verrait presque sur la côte l'humble beauté du vieux bâti, les épinettes giflées par les rafales de l'hiver, les pruches penchées dans le sens de la lune. Ces images, on les aperçoit surtout sur les murs des poissonneries. En vérité, l'histoire a pris un autre cours. Le passé de cet estuaire n'a pas rempli les promesses de ses plus belles marées. La côte s'est esselée, prise dans les filets de la pauvreté et de l'ennuyance. Seuls les villégiateurs canadiens, anglais et américains ont reconnu la beauté primitive de ces âpres paysages. Ils ont cultivé le sacré cambrien et la saine dureté des lieux. Pour le plaisir de ces milliardaires venus s'échouer quelques semaines par année en ce havre surnommé Métis Beach, les petites gens ont peint et repeint les façades des villas, réparé les clôtures et arraché les mauvaises herbes, comme ils le faisaient à la Malbaie et à Kakuna. Nous, Canadiens français, fûmes guides sur les rivières des autres, charpentiers et menuisiers pour les manoirs des autres, jardiniers des jardins des aristocrates, gardiens d'une beauté qui leur était étrangère. Nos politiciens se voyaient comme nous, des serviteurs. Le village des Boules porte maintenant le nom de Métis-sur-Mer, dont il fait désormais partie. Les engagés canadiens-français n'ont pourtant rien fait pour leur propre compte en ce qui a trait à la beauté. Ils ont plutôt cultivé les maisons roulottes faisant dos au fleuve, les motels chips, la ferraille et les terrains en friche. Ne sommes-nous pas la civilisation de la traînerie générale, commerce en désordre, bâtisses jamais finies, façades de garages défraîchies, machineries rouillées? Quand on roule sur les routes du Québec, on aurait parfois le goût de tout raser, de tout démolir, de recommencer à zéro avec des idées nouvelles et des nouveaux matériaux. Nous sommes une société sans style et sans mémoire. Cela me fout les boules, comme on dit. À je ne sais quoi sur mer.
Ouais, Serge Bouchard est souvent irrité par le devenir actuel, pourrait-on dire, de sa belle province. Et il s'en explique et il demande même pardon aux boules. Je vis à Huberdeau, dans les Laurentides. Ce petit village est certes aimable et attachant, mais il n'est pas beau. La forêt mixte qui l'entoure est magnifique. Les vallées glaciaires se faufilent dans le corps des colonnes cambriennes. La rivière Rouge, qui creuse son chemin dans le sable et les roches arrondies, est fabuleuse. Nous sommes au paradis. Mais le sommes-nous vraiment? Vous seriez au beau milieu du Huberdeau, que vous ne verriez jamais la rivière. Le village lui tourne le dos. La forêt est omniprésente, mais elle finit par être invisible, car personne n'a ses arbres à cœur. La nature est profondément inspirante, mais qui s'en inspire? Comment un village de forêt en est-il venu à être si peu forestier? Ici, on ne construit plus en bois. L'architecture d'ensemble n'est pas une architecture et il n'y a pas d'ensemble. La caisse populaire est une boîte carrée en briques pâles et en béton de rab. Le bureau de poste, une boîte carrée en briques fédérales. L'école, une boîte carrée en espèce de crépi andalou. Et je ne dis rien de l'épicerie avec sa façade en céramique de Pompéi. On l'aura compris, mon village est une catastrophe sur le plan des aménagements humains. Or, cet échec a une histoire qui se répète bien souvent à l'échelle du pays. Nous avons à Huberdeau, comme dans bien des villages semblables, un comité pour l'avenir, une vie culturelle, le souci collectif de nous refaire une beauté. Et des jeunes ménages ont choisi de vivre ici. Il y a même des artistes et des villageois qui croient qu'il est possible de faire mieux. Ce mieux, nous le ferons ou pas. Enfin, le temps le dira. Ma dénonciation des aménagements douteux, du laisser-aller général dans le domaine des paysages, n'est pas un acte de désamour, de désaveu ou d'irrespect. Bien au contraire, c'est une déclaration d'espoir et une sorte de cri du cœur. Oui, je le répète, voilà, je formule des excuses auprès des gens, des boules. Dans ma chronique précédente, j'ai trop tenu pour acquis la beauté des lieux, pour ne retenir que la mauvaise part de l'histoire. J'ai cédé à la tentation de jouer sur les boules, une toponymie de belle valeur. Et il y a beaucoup de beaux villages au Québec. Souvent, ce sont des survivances d'avant le XXe siècle. La Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent ne sont pas en reste. Voilà, donc ces beaux villages, ces beaux paysages, Bouchard va nous les faire traverser au fil de ses chroniques, mais toujours avec des références aux populations et à leur vie. Allons-y pour, comme on dit, le chapitre suivant.
Le silence est plein d'histoires. Il est le sourd rebond de la mémoire. Parce qu'elle est immémoriale et gravée dans sa propre paix, l'Abitibi est grosse de ses récits incroyables. Tu sais que le silence est d'or et ce grand bouclier de roche dure n'est autre qu'un gros chargement de silence. C'est par ici que le temps passe. Une terre défrichée, arrachée au grand bois, qui repousse maintenant en petits feuillus malfaisants. Paysage que l'on regarde en se disant, hélas, le souvenir des prospecteurs, l'espoir, la vie, la buée de nos haleines dans l'air froid, comme le souffle de l'original, poussant sa chance dans la neige trop épaisse, les yeux vifs, le nez gelé, le corps désintéressé, épuisé. L'Abitibi a un beau nom, c'est algonquin, et c'est normal. Gabriel Commandant, l'algonquin fondateur, s'en souvient. Le travail, les mines, la forêt sans mesure, les mouches, la neige, les marais, les mousses, les distances, les fourrures et la colonisation. Le minéral, le végétal et l'animal se côtoient dans le temps. Les vallées sont des plis ondulés traversés par des routes qui mettent une éternité à les parcourir, immense routine sauvage en vérité, la plus dure de toutes les routines. Les Abitibiens ont quelque chose, une pierre qu'ils tiennent silencieusement dans les mains, celle de l'éternelle vieillesse, un trésor qui se charrie en pick-up, en avion de brousse, dans la poussière des pistes et la boue des chemins. Je revois dans ma tête les camions couleur orange de Brazos Transport, ces bêtes de somme vivantes et usées déjà vieillies. Des macs renfrognés, sales en été, salés en hiver. Les hôtels du Nord, les odeurs de l'Ouest, les autos noirs sur la glace blanche. L'Abitibi fut autrefois un lac géant, se lassant l'eau de bord en bord. Restent les lacs et les rivières, tout ici coule de source. L'eau se partage, elle est si pure, disant du pur argent. Chaque village fut un espoir, chaque ville est un effort, un travail. Et de la beauté d'Aigbelle jusqu'à la forêt martyre du nord de Sainte-Terre, la vérité s'étale comme sous la lame d'un couteau froid. Gabriel Commandant marchait en raquette l'espace d'avant les découvertes. Il canotait tout seul sur la rivière ennuyante. Il cherchait le filon. De Matagami au grand lac Victoria, du lac éternel au lac Cinq-Seine, ses pensées sur l'épaule, il tentait de saisir le bouclier afin d'en percer les secrets. Une vie entière en tête à tête avec le bois, l'eau, la neige dure et la pierre silencieuse. On ne parle pas assez des Indiens minéraux, à la peau cuivrée, qui ont des chemises du silence sur le dos et des yeux profonds comme ceux des chiens de traîneau. Il est mort pauvre et tranquille, Gabriel, juste au nord de Val-d'Or, alors qu'il surveillait l'entrée d'une mine pour le petit salaire consenti aux gardiens de nuit. Ce fut mine de rien, et c'est cela, l'Abitibi. Une grande histoire, une quête démesurée, une beauté qui ne nous est pas donnée. Il faut durer et s'accrocher, forer et pénétrer. En un mot, l'apprendre.
L'apprendre, cette beauté, oui. Donc, c'était l'Abitibi, et pour d'autres aspects, Serge Bouchard nous emmène maintenant en Gaspésie. Gaspègue, la fin des terres. La péninsule est comme un point fermé qui défie l'Atlantique, un point levé vers l'Irlande ou la Grande-Bretagne. Une menace qui remonte aux temps anciens du monde, alors que la mer et la terre se narguaient l'une l'autre. Il en reste des caps et des éperons et des trous dans les rochers et des baies comme des cratères. Tant de forteresses et de fortins, falaises et tourelles, débris et plages, bois usés par les eaux, bois noyés. On ne fera jamais le tour de la Gaspésie. Car pour cela, il faudrait revenir au cœur des Appalaches, danser le pas des orignaux, nager l'élan de la morue, ressentir l'énergie du saumon, comprendre la solitude de l'automne, la mer qui se soulève, la terre qui fait le dos rond, les petites anses à phoques. Ici s'entendent les plus vieux bruits. Le vent sur la tête d'une roche arrondie, les vagues qui se succèdent, musique variable selon le temps qu'il fait, du clapotis le plus discret jusqu'au débarquement des gros paquets d'eau qui se brisent et se fracassent pesamment. Ici, chic et choc, les galets. Gaspésie veut dire fin du monde, bout du monde. Mais de quel monde parle-t-on? C'est le début du nouveau, c'est la fin de l'ancien? Un loup regarde l'océan, un loup marin regarde le continent. L'un hurle et l'autre siffle. Nous sommes les enfants du vent. En amont d'un endroit précis, les eaux se rétrécissent et l'on finit par distinguer les rives, au nord comme au sud, de chaque côté du grand fleuve dont le cours fait découvrir des pays. Cet endroit précis, c'est Gaspeg, qui signifie détroit. Une route d'eau mène à un autre détroit, un autre rétrécissement où Gaspeg devient Caspec. Une fois le S devenu muet, on entend Québec, l'endroit qui deviendra une ville, eh ben oui, une ville fondée sur le détroit, ici, et puis la troisième, au Michigan, le dernier détroit. De Caspeg en Québec en détroit, on va de détroit en détroit, de l'océan jusqu'au grand lac méchant. J'ai roulé de Caplan à Manche d'Épée, pays de pirates. Gaspeg n'est pas une terre de vacances, ce serait plutôt un lot de travail, de souffrance, de sueur salée. Coupe de bois, filet de poisson, sécherie, fumerie. Raconte-moi l'histoire des goélettes, des goélands, de la pitoune de quatre pieds, des petits trucks à gaz qui descendent les montagnes, devenus les truckers de Sainte-Anne-des-Monts. Raconte-moi la dureté de la face nord, les paysages bucoliques de la baie des Chaleurs, là où les loyalistes ont changé les noms. Ben oui, changé les noms de lieux pour accrocher leur propre foi. C'est devenu Carlton, Chandler, Carlisle, Richmond, Hope. Ah oui, Hope quand même. Bienvenue dans la région touristique de Gaspésie. Voilà tout ce que sur une pancarte bleue du gouvernement nous trouvons à lire. Gaspeg, ma terre de mine, d'améthyste et d'agate, mémoire rouge et mémoire de fer, pêche ancienne, bateau fantôme, beau chêne blanc, morue. Ah, les premiers amoureux, bah oui, les premiers amoureux de la Gaspésie, c'étaient les Amérindiens. Selon l'infaillible National Geographic, la Gaspésie est la troisième plus belle destination touristique dans le monde. Alors, le point fermé qui menace la Grande Mer, à les jointures sculptées par le vent. C'est ça qu'il faut aller voir. C'est une poignée de trésors et de chasse, de pensées fossiles et d'esprits futuristes. C'est là que nous allons écrire le livre blanc de la poésie du monde, au pied d'une élégante éolienne, devant la mer bleue qui pique les yeux, adossée aux épinettes. Vous savez, les épinettes, c'est les sapins hein, au Québec. Donc, les épinettes qui font le dos vert aux montagnes d'ici. C'est les plus beaux détroits d'Amérique. Alors, quittons maintenant les bords de l'Atlantique. On va continuer avec la poésie un peu brute de Monsieur Bouchard pour nous diriger un peu plus vers le nord, nous diriger vers le Labrador.
Nul ne sait où il se trouve exactement. Le pays a souffert de tous les préjugés et de toutes les imprécisions. Il a toujours été dans le brouillard de nos mémoires. Cette terre archaïque fut pourtant la première sur laquelle les marins de l'Europe ont buté depuis les Norses jusqu'aux Basques. En 1900, c'était encore une terre inconnue, sommairement cartographiée, le sujet de prédilection des rêveurs des dernières régions vierges d'Amérique, le pays des supposés derniers vrais sauvages, les mystérieux Nazcapi. Le Labrador froid réchauffe les imaginaires assoiffés de nature. S'agissait-il de montagnés? S'agissait-il de Nazcapi? Les Innus ont échappé à la cartographie abstraite des arpenteurs du monde, à pays mal tracé, peuple mal barré. Nous sommes au temple de l'espace, pays des maigres bouleaux, des épinettes chenues, des roches très anciennes et des vieux tapis de mousse, des vénérables lichens, des neiges aveuglantes, des milliards de mouches, de la souffrance, de l'épuisement et de la mort. Qui donc se bâtirait sur ces plateaux ? Voilà l'Innu Atchi, la terre bien-aimée des Innus, celle des grandes rivières, Patamo, Wanaman, Tchéatsi, et des lieux sacrés et des lacs immenses, Michikamau, Winuakapau, Atikonak. Les Innus ont tenu feu et lieu partout, marchant au pas des caribous, d'une côte à l'autre, des baies océanes jusqu'à la tête des eaux, naissant, vivant, mourant à toutes les rencontres des eaux et des portages. Mais ce fut aussi le cauchemar de Jacques Cartier, qui colporta l'idée que ces lieux abritaient les huttes coupables des fils de Caïn. Cartier avait la Boréalie en horreur. À partir de Baie-Comeau, en direction de l'est et vers le front du nord, deux routes nous introduisent au monde sacré des caribous, des brumes, des fourrures, des loups blancs et des baleines. Un océan sur la droite, la forêt boréale sur la gauche et la voie lactée au-dessus de la tête. Deux routes, une pour Northwest River, l'autre pour Natashkan. Mais à cette jonction extraordinaire, il n'y a rien, pas un panneau, pas une plaque, aucune référence qui aviserait le voyageur. Vous entrez dans la partie orientale de la plus grande forêt du monde, la forêt boréale. La fourche de gauche vous fera traverser le grand pays des Innus, la terre sacrée du maître des caribous, là où il neige en août. La fourche de droite vous conduit au village des pêcheurs et vous verrez aussi Mangan, un des plus hauts lieux historiques de l'Amérique du Nord. Une minute de silence en mémoire de la morue, une autre en mémoire de Carcajou. Oui, il y a des mines et des richesses. Oui, il y a du travail et des gros salaires, de l'eau en masse à barrer et à harnacher. Mais ne pourrions-nous pas, travail faisant, donner sa part à la grandeur, rendre son dû à la beauté ?
Donc on continuera dans un petit moment ces évocations de la nature et des populations du Québec et du Grand Nord avec leurs peuples qui ont des relations souvent difficiles avec le monde moderne. Et en attendant, on va écouter Gilles Vigneault qui, dans Jack Monoloy, va nous parler des relations aussi quelquefois difficiles entre les peuples du Québec. Donc voilà, pour l'instant, on va être avec Jack Monoloy. Et tout à l'heure, peut-être à la fin, si on a quelques minutes, on reviendra à mon pays. Donc Jack.
Jack Monoloy aimait une blanche, Jack Monoloy était indien. Il la voyait tous les dimanches, mais les parents n'en savaient rien. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots se rappellent. La Mariouche, elle était belle, Jack Monoloy était fringant. Jack, disaient les canards, les perdrix et les sarcelles. Monoloy, disait le vent, la Mariouche est pour un blanc. Avec écrit au couteau de chasse le nom de sa belle sur les bouleaux. Un jour on a suivi leurs traces, on les a vus au bord de l'eau. Tous les bouleaux de la rivière Mingan, tous les bouleaux se rappellent. La Mariouche elle était belle, Jack Monoloy était fringant. Jack, disaient les canards, les perdrix et les sarcelles. Monoloy, disait le vent, la Mariouche est pour un blanc. Jack Monoloy est à sa peine, la Mariouche est au couvent. Et la rivière coule à peine un peu plus lentement qu'avant. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots se rappellent. La Mariouche elle était belle, Jack Monoloy était fringant. Jack, disaient les canards, les perdrix et les sarcelles. Monoloy, disait le vent, la Mariouche est pour un blanc. Jack Monoloy, Dieu et son âme, en plein soleil dimanche matin, en canot blanc du haut de la dame, il a sauté dans son destin. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots se rappellent. La Mariouche, elle était belle, Jack Monoloy était fringant. Jack, disaient les canards, les perdrix et les sarcelles. Monoloy, disait le vent, la Mariouche est pour un blanc. La Mariouche est Jack Monodoy est au fond de l'eau. Avoir flotté sur les nuages et les canaux et les billots. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots en mémoire. Et leur écorce est toute noire depuis que Monodoy a sacré le camp. Tchac, 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 disaient les canards, les perdrix et les sarcelles. Monodoy, disait le vent, la Mariouche est pour un blanc.
Hey, hey. Ouais, ouais, Jack Monodoy a sacré le camp. Alors, Jack Monodoy a sacré le camp, ça veut dire qu'il est parti. Il est parti bien loin dans les légendes inoues, sans doute. Puisque c'est toutes ces populations amérindiennes dont Gilles Vigneault nous rappelait ici qu'elles avaient été bien maltraitées dans l'histoire. Donc Gilles Vigneault, comme Serge Bouchard, comme Michel Jean, dont on avait lu un roman il y a un mois, donnent leur témoignage de l'histoire du Québec à travers leur peuple et à travers souvent l'écrasement de la culture des peuples. Mais les grands changements, outre l'exploitation du bois, qui a été déjà évoqué, les grands changements, c'est surtout au XXe siècle, la course aux énergies, la course au pétrole et à l'électricité. Et cette course au pétrole et à l'électricité, elle va très loin. Elle va justement jusque dans le Grand Nord, dont on parlait tout à l'heure. Écoutons d'abord un témoignage d'enfance de Serge Bouchard. Là, on n'est pas loin, on est juste au bout de l'île de Montréal. Et puis après, avec le texte suivant, on parlera des pipelines, enfin des oléoducs en bon français québécois.
Dans les années 1950, les mères battaient encore leurs enfants lorsqu'ils commettaient des fautes graves. Aucune loi n'empêchait les parents d'exercer leur courroux sur les fesses de leurs rejetons. Je me souviens d'en avoir mangé toute une à l'occasion de la construction d'un pipeline à Pointe-aux-Trembles. À cette époque, un grand nombre de raffineries de pétrole faisaient la fierté de la province de Québec. Ces raffineries se concentraient en un seul lieu, presque à l'extrémité est de l'île de Montréal. Notre terrain de jeu se perdait dans des réseaux de grands tuyaux. Une épaisse fumée jaune sortait des cheminées qui sentaient les œufs pourris. Torches enflammées et ampoules électriques illuminaient le ciel, la nuit, créant l'impression d'une cité fantôme où se terraient des monstres. Or, ces monstres de la pétrochimie rejetaient directement dans le fleuve, tout près du quai de la rue Marien, leurs résidus de pétrole, le pipi noir de la prospérité. Les compagnies d'huile avaient entrepris la construction d'un pipeline souterrain entre le quai et la rue Sherbrooke. Cela creusait une grande tranchée dans le sol calcaire qui attirait des enfants du quartier. Dans le fond de cette tranchée, de gros tuyaux avec à intervalles réguliers des bouches pour y pénétrer. Ce chantier était laissé sans surveillance et nous pouvions y jouer à volonté. Nos mères nous interdisaient absolument de nous aventurer dans ces coins-là, ce qui les rendait absolument irrésistibles. Aussi fus-je pris en flagrant délit de courir en petit bonhomme à l'intérieur du pipeline, d'une bouche à l'autre pour impressionner mes copains. C'est alors que ma mère a choisi de sortir la verge de la punition. J'ai vu le fleuve Saint-Laurent charrier de l'huile brune et une époque où le mot « environnement » n'existait pas. J'ai connu les sols contaminés, la nature morte, les carrières dénudées, les camions d'huile, la féerie chimique des nuits d'été. J'ai entendu le bruit incessant du raffinage, senti son odeur, son inoubliable puanteur. J'ai connu les explosions des réservoirs, la mort tragique des pipe fitters, la fatigue des chauffeurs de truck attablés au Delicatessen, la nuit, le jour, en hiver, en été, entre la Shell et la Texaco. Le pétrole était notre monde et ce monde était toxique. Mais dans les années 1950, la toxicité faisait partie de la prospérité. Amenez-en du pétrole, charrions-en du pétrole. Dans ce temps-là, le pétrole, ce n'était pas de l'énergie, c'était juste du gaz. Je suis vieux aujourd'hui et il ne me viendrait plus à l'idée de courir en petit bonhomme dans un gros tuyau. Mais j'ai toujours les yeux ouverts. Je vois que le pétrole d'aujourd'hui est plus sale que celui d'hier. Et voici que l'on projette la construction d'un super oléoduc en provenance de l'Alberta, lequel va passer non pas dans Outremont, mais bien dans le quartier de ma jeunesse, l'est de Montréal. Devrais-je m'en étonner ? En plus, ce pipeline traversera tout le sud du Québec, répandant son mal comme une peste noire à la grandeur du territoire. Selon les dires des promoteurs, ce projet serait un grand bienfait pour le monde. Les compagnies d'huile s'appellent désormais des entreprises énergétiques. Elles travaillent pour le bien commun et pour la qualité de nos vies. Tant leur image que leur discours nous font valoir, une publicité après l'autre, un progrès responsable, des richesses réconfortantes et de vertes vallées. Autant dire le paradis terrestre. En vérité, nous sommes en train de nous engluer dans nos mauvaises habitudes. Nous sommes des automobiles et nous baignons dans l'huile. Le voyage au long cours du grand serpent noir aura des retombées pour tous. Des gouttes sales de richesses tout au long du trajet. Serait-ce cela le progrès ? Les mères ne battent plus leurs enfants. C'est devenu un crime. Mais quant aux dommages collatéraux de l'enrichissement collectif, nous nous enfonçons. Je dirais que dans ma jeunesse, on embrassait et on ne se comptait pas de menteries. On savait que c'en était. Aujourd'hui, on embrasse tout autant, mais on prétend brasser des affaires propres. Or, de la marde propre, cela n'existe pas. La merde.
Oui, oui, la merde ou la marde, comme on dit au Québec. Oui, oui, absolument. Donc, l'horreur du progrès, la course à l'énergie, ben, ça apparaît dans bien des régions du Québec, aussi du nord des États-Unis, puisque vous savez que les combats contre les oléoducs qui sont menés très régulièrement par les populations amérindiennes. Pensez par exemple au Sioux Lakota, qui dans le nord des États-Unis continue à combattre les oléoducs qui traversent leurs terres sacrées. Et ils sont toujours très militants contre ces traversées d'oléoducs. Ça peut d'autant plus se comprendre quand Serge Bouchard nous donne des informations très dramatiques sur ce qui s'est passé quelquefois justement au Québec. Et par exemple, les accidents qui ont pu en effet avoir lieu. Il nous parlait tout à l'heure des Piper Fitters, les hommes qui subissent les accidents. Mais il y a eu au Québec des explosions qui ont fait date dans l'histoire et dont il nous raconte aussi les souvenirs. Je me souviens d'être passée là, à Gogama, il y a quelques années. Je voyageais dans cette région de l'Ontario pour donner des conférences sur les réalités autochtones auprès des entreprises forestières. Alors, moi j'étais en voiture, j'allais d'un endroit à l'autre. Travail difficile quelquefois, longues heures sur la route, dans les restaurants. J'avais envie d'imaginer un beau train sillonnant ces paysages. Mais oui, un train peut être beau et rendre service avec sa locomotive bien dessinée, ses wagons familiers, ses allures de légende. Les trains font partie de l'histoire du Canada, on le sait. Ils ont charrié tant de blé, de planches, de madriers, de marchandises, de gens, d'histoires. Et quelquefois, ils ont déraillé, littéralement déraillé, ces trains commodes qui reliaient les gens et les régions. Ils nous ont fait rêver et voyager, mais ils nous ont fait aussi bien des misères. Au Canada, il faut être un baril pour voyager en train maintenant. Et au Canada, ça continue, les transports de pétrole. La communauté des Anishinabés, les Algonquins, Ojibwés, de Matagami, vivent sur les rives du lac du même nom dans le nord de l'Ontario. Le toponyme est identique à celui du lac Matagami en Abitibi, et tous deux, ça signifie « rencontre des eaux » dans les langues algonquiennes. Le beau lac se décharge dans la rivière appelée Matagami, elle aussi, puisqu'elle se dirige ensuite vers la baie James. Eh oui, une région magnifique. Les Anishinabés du lac Matagami ont signé, en 1905, le traité numéro 9. Contre des promesses faites par des fonctionnaires à la langue fourchue, dont l'invraisemblable Duncan Campbell, Scott, le grand mépriseur d'Indiens et le chef des affaires indiennes du Canada. Ils ont cédé leurs terres ancestrales du nord de l'Ontario au gouvernement fédéral. Et, au XXe siècle, ils ont vu se construire le chemin de fer du Canadian National, ainsi que de nombreux barrages. Ils ont été les témoins de l'exploitation très intensive de la forêt. Ils ont vu ouvrir, et longtemps après, fermer les grandes scieries. Ils ont connu les feux et les repousses. Et près de Matagami se trouve ce fameux village de Gogama, qui compte maintenant moins de 1000 résidents. Que s'est-il passé à Matagama ? Maintenant, on y pêche, on y chasse, il y a des canaux, des lacs et des lacs, et on peut encore se livrer à la méditation en forêt boréale. C'est une chose précieuse, la méditation en forêt boréale, la paix virginale du monde. Alors imaginez que dans cette paix virginale, un convoi de pétrole déraille et explose. Eh oui, c'est ce qui est arrivé à Gogama en pleine nuit. On aurait dit en cachette. Le convoi arrivait de l'Alberta bitumineuse et se rendait à la raffinerie de Lévis, sur le Saint-Laurent. Tout un trajet avec un pareil chargement, ça s'appelle tenter le diable. Les accidents ferroviaires s'étaient déjà multipliés. Et cette fois-là, c'était vraiment le pire qui arrivait. En matière de transport pétrolier, on a tous été immensément floués. Ne comptez plus sur le train pour vous déplacer. Le train, lui, il ne déplace plus que les barils de pétrole. Le train est devenu une ombre noire qui serpente dans nos cours, un serpent toxique, une poudrière de matière dangereuse en mouvement, un poison explosif qui traverse des villages vulnérables et des forêts précieuses. Il est inconcevable d'avoir transformé le réseau ferroviaire canadien en un genre de pipeline sur rail, sans le dire à personne. Il est irresponsable de transporter une quantité de pétrole sale dans des wagons-citernes sales dont on dit que, bah oui, ils quittent les rails de temps en temps, ils s'éventrent, ils s'enflamment, ils tuent des gens, ils noircissent les lieux et les rivières, ils entachent la beauté du monde. Qui au Québec connaissait Gogama avant le déraillement des wagons de pétrole? C'est comme ça que nous apprenons notre géographie au fil des tragédies. À Gogama, ce ne sont plus les poissons qui sautent, ce sont les trains. Voilà, cette horreur du progrès, donc, elle avait commencé dans l'histoire bien avant, et elle avait pris bien des aspects qui, pour certains, expliquent le présent. Bouchard revient également donc sur l'histoire de la colonisation, et Françoise va nous lire encore une histoire sur les beaux perdants.
Par association d'idées, je me suis retrouvée chez les Beautiful Losers de Leonard Cohen, un roman écrit au milieu des années 60, alors que le jeune auteur n'était pas encore célèbre. Les perdants magnifiques sont une quête mystico-érotique qui réunit les trois, et non deux, peuples fondateurs autour du personnage de Kateri Tekawita, la sainte iroquoise morte à 24 ans, à Kanawake, victime de ses propres mortifications, triangle tour à tour amoureux et belliqueux, où un Anglo de Montréal, un Canadien français séparatiste et une autochtone dépossédée se disputent une identité, un rôle dans l'histoire. Où l'on voit que le triangle historique entre le français, l'anglais et l'amérindien, ces trois solitudes, n'aura jamais fini de nous hanter. Je cherche d'ailleurs à savoir depuis plusieurs années qui a vraiment gagné la bataille de la Monongahela en 1755. L'histoire officielle dira que ce sont les Français, dirigés par le capitaine de Beaujeu, l'officier responsable du fort Duquesne, Pittsburgh aujourd'hui, qui auraient écrasé la colonne britannique du général Braddock, une armée de 2300 soldats et miliciens. Pourtant, les Français ne faisaient pas le poids. De Beaujeu ne disposant que de 200 soldats, sinon moins. Selon les mémoires d'Augustin Grignon, un vieillard de la butte des Mordes au Wisconsin, De Beaujeu était paralysé par la peur et ne voulait pas engager le combat. Le poste aurait bel et bien été perdu, n'eût été l'intervention de 1300 Indiens coalisés, Menomines, Potawatomi, Venda, Shawanon et Ottawa, réunis et commandés à Monongahela par le métis franco-ottawa Charles Langlade et par l'Ottawa Pontiac. Ces deux derniers comptaient aussi sur 400 Canadiens français, explorateurs et coureurs des bois. Ils se battirent à l'indienne en embuscade comme de véritables guérilleros,
Selon Grignon, petit-fils de Charles Langlade, ce furent les Indiens, les métis francophones et les coureurs de bois ensauvagés qui humilièrent les Britanniques, ce qui ne sera jamais reconnu et encore moins admiré, ni par les Anglais, ni par les Français, orgueil oblige. Cette journée-là de 1755, près de Pittsburgh, les perdants magnifiques ont gagné sans que l'histoire en prenne note. Ils auront bon triomphé, les perdants, leurs victoires seront toujours défaites par l'amnésie, le mensonge et l'omission.
Oui, c'est un petit peu un des chevaux de bataille de Serge Bouchard, c'est les perdants magnifiques, c'est-à-dire les Amérindiens, et la façon dont l'histoire, bien sûr, oublie ou efface volontairement les Amérindiens et la culture amérindienne au Canada, comme, enfin disons au Québec comme dans le restant du Canada, et au Canada comme aux États-Unis. Il nous en parle à un autre, dans un autre aspect, dans un autre chapitre que je vais vous lire. Les Indiens ne sont jamais bien loin, ni au Canada, ni au Québec, ni aux États-Unis. Les Indiens ne sont jamais bien loin des vieux Canadiens, puisqu'en fait ce sont les plus vieux Canadiens. On les appelle quelquefois, enfin il y a une tribu qui s'appelle les Métis. Et les Métis, c'est les vrais Métis, c'est-à-dire les premiers à s'être mélangés, Amérindiens et Français arrivés autour de Jacques Cartier. Et puis les Métis se sont multipliés et de grands clans familiaux ont mêlé l'esprit du Manitou à celui de Jésus. Cela a donné la prière intime des Joseph Laflèche ou des Henri Picotte de ce monde. La longue piste des larmes, vous savez, la piste des larmes qui est le transfert des populations indiennes du nord vers le sud. La longue piste des larmes est passée par Saint-Louis en direction de l'Oklahoma dans les années 1830. La langue française des Canadiens errants et aussi des Amérindiens qui l'avaient adoptée pour une part, la langue française s'est mélangée avec l'algonquin des Illinois, celle des Sioux Omaha, celle des Osages, celle des Iroquois, des Cherokees. Du Canada aux États-Unis, on a appelé le français le « Popo French », en reconnaissant un genre de métissage linguistique, mais c'était un quolibet, Popo, et donc ça nous indique bien que la langue a toujours été dévalorisée pour l'ignorance qu'elle supposait. Personne ne la trouvait belle. Évidemment, elle était peut-être un peu trop mélangée. En tout cas, les gens de bien, soient-ils américains ou franco-français, n'ont jamais vraiment apprécié ni la langue, ni les exploits des coureurs des bois, ni les défis des traiteurs ou des commerçants de ce temps-là, dans la forêt. Plus encore, nulle part, on a vraiment remarqué le merveilleux et partant la valeur des langues amérindiennes. Alors, que sont-elles devenues et qu'est ce français des origines devenu? Ces coureurs d'Amérique avaient le verbe facile, dit-on. Ils savaient raconter le monde sous toutes les coutures et sous toutes les coutures de ses libertés et de ses obstacles. Mais leurs contes se sont perdus dans le silence et dans l'oubli. Il n'en reste que des traces, des noms de lieux, des histoires bien méconnues de personnages démesurés. Contre toute attente, une tournure de cette langue a survécu jusqu'à aujourd'hui. Il existe à Saint-Joachim, à proximité de la ville de Saint-Louis, un endroit nommé Old Mine. Et encore aujourd'hui, quand on y arrive, à l'entrée, l'écriteau nous dit en français « Bienvenue à la vieille mine ». En ce lieu, le cimetière est rempli de croix rouillées par le temps, de tiges tordues par l'oubli, la fatigue du métal en quelque sorte. La société historique de l'endroit tente malgré tout de maintenir le souvenir français au sens de français d'ici, une vraie communauté. Si vous y allez un jour, vous rencontrerez bien quelques locuteurs de Popo French. Ils sont une douzaine de vieux et de vieilles à le parler encore. Pourquoi et pour qui? Oh, rien ne résiste à la langue des Américains. Il est difficile d'imaginer que le Mississippi, avant d'entendre son premier son d'anglais, était déjà familiarisé avec les paroles des Amérindiens, les paroles délurées des Canadiens français et ce bagou des coureurs de bois. Le grand fleuve avait porté les belles comptines des Franco-Amérindiens, les chants de joie des Illinois, les chants de guerre des Osages, les pleurs des Cherokees sur les chemins des larmes. Alors dans cette vieille mine, Nous enterrerons tous un peu un trésor à jamais perdu, une musique troublante d'un monde révolu. Le français ou l'amérindien, des hommes libres des montagnes, les jurons et les blagues des coureurs des bois et des plaines. Le vieux français, le vieil amérindien, originaire de la vallée du Saint-Laurent, qui descend un peu plus au sud et qui rejoint la complainte douloureuse de toutes ces langues amérindiennes mortes dans l'indifférence universelle. Ici gisent les accents et les tonalités, les images et les signes de ce que trop de gens appellent maintenant des idiomes ou des patois. Alors, qu'on se le dise, ça risque de mourir une langue. Défendons-la. Évidemment, on le sait, les Québécois défendent le français. Ils défendent un certain nombre d'expressions qui nous font rire ou sourire contre l'envahissement de l'anglais américain. Et on va quand même revenir à Gilles Vigneault, dont on parlait tout à l'heure. On va revenir avec Gilles Vigneault à mon pays. Évidemment, mon pays, c'est le Québec.
Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle, quand viendra des autres saisons, pour se bâtir à côté d'elle. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froid dur. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. De ce grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre, ma maison, c'est votre maison. Entre ces quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon et les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je veux posséder mes hivers.
Quand même pas vous laisser sur l'hiver. Enfin, autant j'aime Gilles Vigneault et le Québec, mais quand même, l'hiver, on peut s'en passer. Alors, je vais vous dire au revoir avec une promesse de température nettement plus élevée, puisque la semaine prochaine, nous retournerons à Haïti avec une nouvelle francophonie, enfin, des gens qui sont francophones aussi, donc un peu plus dans la chaleur, et on retrouvera Émilie Prophète, qu'on avait déjà présentée avec un nouveau livre que j'ai rapporté, tout frais, tout chaud, du Festival America. Voilà, à bientôt, à la semaine prochaine, et au soleil, bien sûr.
Here's a song that comes from Tanzania.
Malaika. C'est Radio Galère. Merci.